Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
C'est pourtant vrai qu'on est lundi.
Mais oui, on est lundi.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, après 10 mois de négociations post-électorales, les Pays-Bas ont à nouveau un gouvernement depuis ce matin. À nouveau, c'est le libéral de centre-droit Mark Rutte qu'il dirige, surnommé Teflon, parce que tout lui glisse dessus apparemment. Rutte enchaîne son 4e mandat avec une orientation plus progressiste que lors des 3 précédents. Et le secret de sa longévité, c'est sa capacité d'adaptation. C'est votre monde d'après.
Oui, il y a un an, on disait Rutte proche de la sortie définitive. Il démissionnait suite à un gros scandale. Scandale baptisé Toslarenaffaire en néerlandais, répétez après moi.
Ah ben non,
Toslarenaffaire. En gros, des contrôles très excessifs et même du harcèlement sans preuve contre de prétendus fraudeurs aux allocations familiales. Un an plus tard, revoilà Mark Rutte. Il est dorénavant le dirigeant le plus ancien en fonction au sein de l'Union européenne avec le Hongrois Orban. Et s'il va au bout de ce 4e mandat, il battra le record de longévité au pouvoir aux Pays-Bas. Alors, quel est le secret de Rutte? Vous allez voir, il y a des enseignements à en tirer. Son premier talent, c'est l'art de monter des coalitions, autrement dit, de trouver des compromis. Le système politique néerlandais l'impose. C'est un régime parlementaire avec un scrutin proportionnel intégral. Conséquence, 13 partis représentés à l'Assemblée et les députés peuvent renverser le gouvernement à tout instant par une motion de défiance. Donc il faut faire des compromis pour gouverner, comme en Allemagne. Et à ce jeu-là, Rutte est un orfèvre. Avec son équipe libérale de centre-droit, il a bâti un nouveau gouvernement avec les mêmes partenaires que la dernière fois, 2 partis de droite et 1 parti libéral de centre-gauche, D66, mais en modifiant les équilibres au profit de ce dernier, le centre-gauche, parce que c'est le seul à avoir progressé dans les urnes. Bref, Rutte s'adapte au verdict démocratique.
Et donc, ça donne un gouvernement plus progressiste que les précédents.
Oui, d'abord, il y a le symbole, un gouvernement à parité, 20 ministres, 10 hommes, 10 femmes, dont plusieurs sur des postes à haute responsabilité, et 2 portefeuilles attribués à des personnalités issues de l'immigration, Dina Nezilgöz d'origine turque à la justice, et Frans Verwindt, originaire du Suriname à la protection des droits. Ensuite, il y a la priorité donnée à l'environnement, confiée à un jeune ministre de 34 ans, Rob Jetten, issu du mouvement D66, 35 milliards de budget sur 10 ans pour assurer la neutralité carbone à l'horizon 2050, dans un pays qui veut réduire sa dépendance au gaz, un pays qui regarde aussi avec inquiétude la montée des eaux liée au réchauffement. Un tiers des Pays-Bas est sous le niveau de la mer. Enfin, il y a donc la réorientation sociale, voire social-démocrate. Elle s'incarne en Sigrid Kaag, chef de file de D66, nommée vice-première ministre et ministre des Finances, poste clé, avec un budget de dépenses ambitieux, en particulier sur la santé et plus encore sur le logement. Objectif, construire 1 million de nouveaux logements en 10 ans, c'est l'un des défis majeurs des Pays-Bas confrontés à une pénurie immobilière. En résumé, Mark Rutte fait bouger ses propres lignes et il affiche un programme qui se rapproche de la nouvelle coalition allemande dirigée par les sociaux-démocrates.
Mais alors, en quoi ça peut avoir des conséquences pour nous, la France ?
La première conséquence à court terme, cette inflexion politique des Pays-Bas est une bonne nouvelle pour les ambitions françaises pendant sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que Mark Rutte, malgré son côté Macron néerlandais, est longtemps apparu en Europe comme l'homme qui disait non à Paris, l'homme de la rigueur budgétaire, le porte-étendard des pays dits frugaux, avec Sigrid Kaag aux finances dont je vous parlais. Changement de ton, le nom peut devenir oui, parce que la chef de file de D66 veut une Europe plus forte et elle est sensible aussi au concept d'autonomie stratégique européenne chère à Paris. Et puis il fait guère de doute que Emmanuel Macron observe avec attention l'évolution de Mark Rutte et les deux hommes, on l'a dit, ont beaucoup de points communs. Et il y a une leçon politique à tirer de ce qui se passe aux Pays-Bas. Pour espérer durer, il faut savoir évoluer et tenir compte du résultat des urnes. L'avenir dira si, à l'image de la bifurcation prise par ce Rutte numéro 4, un éventuel Macron 2 divergerait du Macron 1. Mais il y a une différence de taille quand même. Le régime présidentiel français, avec son mode électoral législatif majoritaire qui survalorise le poids du candidat et du parti arrivé en tête, avec une conséquence mécanique, une tendance du vainqueur à se croire tout puissant et à négliger l'esprit de compromis et l'esprit de coalition qui sont aujourd'hui les marques de fabrique de l'Allemagne et des Pays-Bas.